EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Béni soit Dieu qui nous accorde encore une nouvelle semaine pour apprendre ensemble et grandir ensemble à l'image de Jésus-Christ. Pendant cette semaine, nous allons commencer quelque chose d'assez profond, personnel, intime, intérieur, émotionnel et spirituel en même temps. Nous allons débuter un sujet qui concerne Dieu dans sa nature la plus intrinsèque. Mais ça concerne aussi l'être humain dans sa façon d'exprimer la nature de Dieu. Vous l'aurez presque compris. Nous allons parler pendant cette semaine de l'amour. De l'amour comme Paul en parle dans 1 Corinthiens chapitre 13. Et dès aujourd'hui, j'aimerais déjà aborder le premier terme que Paul utilise pour décrire l'amour. Il dit l'amour et passion. Tout au long de cette semaine, nous allons rester sur ces adjectifs, ces qualificatifs derrière l'amour, et on va comprendre ensemble quels sont les mots qui étaient vraiment là dans la Bible, comment on peut réellement appliquer ça au quotidien d'aujourd'hui. Je vous assure, au bout de cet enseignement, vous allez commencer à déployer la nature de Christ partout où vous allez. Alors, let's teach, grandissons ensemble. Lisons donc le texte, 1 Corinthiens chapitre 13, versets 3 à 8. Je vais lire dans la version parole, dans la version de Lucegon plutôt. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point. Elle ne s'enfre point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle exerce tout, elle espère tout, elle supporte tout. La vérité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. Paul est dans un contexte particulier. Il est en train d'enseigner aux chrétiens de Corinthe. Le chrétien qui habitait Corinthe, c'était quand même des chrétiens assez spéciaux, parce que la ville de Corinthe étant une ville très très commerciale, attirant beaucoup de gens venant de partout, elle était aussi caractérisée par la présence des personnes qui d'origine n'étaient pas grecs ni romains, qui avaient en fait acheté, je vais dire, travaillé au point de se prendre leur nationalité. Ils ont réussi à payer, à sortir de leur esclavage et se payer la nationalité. Corinthe était énormément fait de ce qu'on appellerait de self-made men, des gens qui ont travaillé dur pour devenir ce qu'ils sont devenus par eux-mêmes. Donc, on pouvait rencontrer à Corinthe des riches qui n'avaient rien de la noblesse, mais qui avaient de l'argent. On pouvait rencontrer vraiment la confusion, quoi. On regarde quelqu'un de... On le voit pas aussi, on le croit pas aussi beau, mais il est le mieux habillé. Parce que c'était des nouveaux riches, des personnes qui accédaient à la vie difficilement, après l'avoir difficilement conquise. Ici, Paul est en train de parler de quelque chose de particulier qui arrivait, c'était au sujet des dons spirituels, les types des réunions qu'ils avaient. Paul insiste beaucoup aux Corinthiens parce que pendant leur réunion, il s'est manifesté tellement de l'incohérence d'une vie que les chrétiens ne sont pas censés avoir. Alors, Paul leur parle en particulier des dons de l'esprit. Il leur explique. Vous avez reçu toute une liste de dons. Il y a plein de dons qui se manifestent chez vous. Il leur parle en particulier de parler en langue et de la prophétie qui étaient des dons qui causaient quand même presque du désordre. Et il insiste, le but, c'est l'édification, ça doit se faire dans l'ordre. Il explique ça au chapitre 12 et il va encore approfondir ça au chapitre 14. Mais au milieu, il veut se rassurer de la motivation derrière l'exercice de chaque don. Alors il dit, je voudrais vous montrer une meilleure façon, la manière la plus noble, la bonne façon d'user des dons spirituels. Et quelle est cette bonne façon? Eh bien, c'est d'être rempli d'amour. Il commence en leur disant que Quand on distribuerait les biens qu'on a aux pauvres, on est juste comme une sorte de cymbale qui retentit si à la base, on n'a pas l'amour. Il leur dit même quand on parlerait les langues des anges, il fait de l'exagération. Il exagère et dit même si on parlerait les langues des anges, même si on pourrait faire des choses incroyables, on déplacerait des montagnes. Cela ne vaut rien si à la base, il n'y a pas ceci. Quoi ? L'amour. Je pense que si Paul dit toute notre capacité pentecôtiste ne vaut rien, si on manque cette chose-là, eh bien, je crois que cette chose commence à revêtir beaucoup d'importance. Je veux moi savoir quelle est cette chose qui, si je la manque, eh bien, tout ce que je fais là ne vaut rien. Je vais la voir, moi, cette chose. Et Paul explique que c'est l'amour. L'amour authentique. Dans la Bible, dans le grec, il y a plusieurs mots pour dire aimer ou plusieurs mots qui expriment le verbe amour dans le grec. Et il y a le mot qui est là, qui est un mot d'amour assez particulier, qui est agapao, l'amour de Dieu, l'amour selon Dieu. L'amour que Dieu a est l'amour à la manière de Dieu. Et l'ancien français des 1910, lorsque Louis II traduit, le meilleur mot qui semblait être le mot qui décrit l'amour de la nature de Dieu, c'était le mot charité. Et c'est pour ça que je lis tout à l'heure là, la charité fait ceci, la charité fait cela. Mais avec le temps, dans la langue française, aujourd'hui, quand on entend charité, on pense à un bienfait, on pense à de l'aumône, à faire du bien à un pauvre. Ah, il demande la charité. Or, le mot à son origine, c'était de l'amour divin, qu'on exprimerait comme Dieu, à la nature de Dieu. Eh bien, donc, quand vous lisez charité, surtout dans Louis II, souvenez-vous que vous parlez de l'amour agapao, ou l'amour de la nature de Dieu, l'amour de Dieu. Et il insiste tout de suite, il se met à décrire comment est l'amour. Il fait une liste, je veux dire. Qu'est-ce que cette liste dit? La liste dit ce que l'amour est, et la liste dit ce que l'amour n'est pas. Pour mieux définir l'amour, Paul utilise des affirmations de ce que l'amour devrait être ou ce qu'elle est. Ou alors, c'est que l'amour ne devrait pas être. Il dessine donc un contour. En dessinant ces lignes, il dit, vous sortez de là, ce n'est pas de l'amour. Vous restez à l'intérieur, c'est ça l'amour. Il montre, il utilise la voie négative plus de 9 fois pour montrer que l'amour n'est pas ça, l'amour n'est pas ça, l'amour n'est pas ça. Il utilise la voie affirmative plus de 7 fois pour dire, l'amour c'est ça, l'amour c'est ça, l'amour c'est ça. Chacun de ces mots est traduit avec soin. Mais comme je venais de vous démontrer que le mot charité lui-même seulement ayant tellement changé, il est possible que certains de ces mots-là, quand on le dit aujourd'hui dans notre société, on pense à autre chose. Le but ici, c'est que chacun de ces mots, une fois utilisé, vous sachiez qu'est-ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Dans ce chapitre, Paul prend un plaisir de personnaliser l'amour. Il parle l'amour comme si l'amour était une personne. Il lui donne des attributs qu'on donnerait à un être humain. Il personnalise, ou devrais-je dire, il personnifie l'amour. Alors il dit, l'amour est patient. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le mot patient là-bas, en grec, makrotimei, veut dire être lent à la colère. Ça veut dire patienter, supporter longtemps. Supporter longtemps. Être très lent, c'est-à-dire on a attendu longtemps que tu puisses te fâcher. On a pensé que là, tu allais déjà exploser. Là, mais on s'est dit, wow, pourquoi moi, à sa place, j'allais déjà exploser. Mais on a l'impression que ta ligne des limites pour la colère, vraiment, c'est loin. Et c'est en regardant Paul exprimer ce qu'est l'amour qu'on ressent qu'il est en train de présenter des attributs de Dieu. Là en colère, n'est-ce pas ça, Dieu tout craché? Et nous alors, peut-on être là en colère? J'ai entendu certains chrétiens se dire, bah la liste de l'amour là, c'est juste, ça part de Dieu, nous on peut pas, un être humain ne peut pas devenir comme ça. C'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit que nous avons reçu cet amour par le Saint-Esprit qui est en nous. Il est un devoir de pouvoir manifester et vivre ça. Là, c'est une école. Là, progressivement, on devient meilleur dans notre façon d'exprimer l'amour. L'amour est lent, très très lent à la colère, patiente, supporte pendant longtemps. Je tiens ma Bible, elle est assez grosse, je la tiendrai comme ça, avec ma main bien présenté là, tout droit, tenu. Et on me demande de tenir comme ça longtemps, 20 minutes, durant toute l'émission. Pendant que j'enseigne, que je tienne comme ça. Je suis presque sûr qu'au moment, ça va commencer à trembloter. Le terme patience signifie ici, quand je tiens la colère comme ça, je la tiens pendant longtemps, je supporte comme ça longtemps. Je la lâche pas à la première minute, je supporte. Ça ne veut pas dire que je suis à l'aise et que je suis immunisé. Non, ça veut dire que je supporte la douleur, les tremblements qui viennent avec, je supporte que ça devienne mal à l'aise, mais je ne lâche pas. L'amour est comme ça. Il y a des opportunités, des raisons de se fâcher, de s'exploser. L'amour attend pendant longtemps. Laissez-moi vous proposer quelques affirmations pour qu'on comprenne ces mots patience ici. 1. L'amour qui prend du temps. Quand on dit que l'amour est patient, ça parle d'un amour qui prend du temps, qui prend son temps. Lisons 1 Corinthiens chapitre 13 verset 4. La charité est patiente. C'est ce qu'on vient d'apprendre, n'est-ce pas? Elle est pleine de bonté, la charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. La charité est patiente. Jacques chapitre 1 verset 19. Jacques 1 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Ah, j'aime bien ça. Le texte dit que tout homme soit prompt à une chose qui est écoutée, lent à deux choses. Sois prompt à écouter, précipite-toi d'écouter et sois lent à parler et lent à te fâcher. Mes amis, qu'est-ce qu'il y a de si mystérieux dans ce texte? Tout est clair. Il est bon d'être prompt à écouter. Quelqu'un veut parler, quelqu'un veut s'exprimer. Oui, je t'écoute. Au moment de parler, Jésus a dit, tourne ta langue cette fois. Quand ce que tu viens d'entendre peut être sujet de s'énerver, sois lent à la colère. Écoutez bien cette phrase. Quand je ralentis ma bouche, j'accélère la grâce. Quand je ralentis ma bouche, j'accélère la grâce. J'ai voulu laisser cette phrase pour vous montrer un peu ce contraste. Tu as l'impression de ralentir dans un domaine, sache que tu es en train d'accélérer un autre. Si tu as l'impression de ralentir dans ta bouche et de te dire, j'aurais dû lui parler, mais laisse ce que tu me dis, pasteur, ça veut dire quoi? Je ne parle pas. Non, je suis en train de dire, oh, sois lent. La Bible dit ralenti. Mais la bonne chose, c'est que quand tu ralentis dans tes paroles, tu ralentis dans ta colère, la grâce accélère. L'expression de la grâce est plus rapide. On y ressent la grâce. Mes frères, je n'invente pas ça. C'est Dieu qui est comme ça. Dieu, pour mieux nous montrer sa grâce et démontrer combien elle nous a atteint, comment elle vient rapidement sur la terre, elle est en action. Il s'est rendu, il a juste exprimé la lenteur de sa colère. Il est si lent la colère qu'il attend que le plus grand nombre puisse se repentir et venir dans le royaume. Il a ouvert la porte pour attendre des années et des années et ne réserver qu'un seul jour pour la colère. Pourquoi il fait ça? Pour faire accélérer la grâce au milieu de nous. Mon frère, ma sœur, si nous devons, nous, enfants de Dieu, répandre la grâce autour de nous, notre amour doit être patient. Quelle est la dernière fois que tu t'es dit, wow, j'arrive plus à patienter. Ma patience est mise à l'épreuve. Il y a certains chrétiens qui se vantent d'être impatients. Ils trouvent ça un attribut. Ils disent, moi, je suis impatient. Moi, j'ai pas le temps pour ces choses-là. Moi, je suis impatient. L'attribut n'est pas l'impatience. Si on devrait se vanter pour une chose, on devrait se vanter pour la patience. 2. Patience reçue de la patience de Dieu. Quand on parle de l'amour et patient, la deuxième des choses que je voudrais communiquer ici, c'est que nous avons une patience que nous avons reçue de la patience de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a montré sa patience vis-à-vis de nous et nous avons usé de ça pour donner aux autres. Mon ami, tu ne peux pas dire que tu n'es pas patient. C'est, surtout pas de la part d'un chrétien. Oh, tu sens que ton corps, ton cœur est sur le point de s'exploser. Mais le mot que Paul utilise ici, c'est de supporter pendant longtemps. Ce n'est pas être à l'aise pendant longtemps. Non, c'est tu n'es pas à l'aise, tu es mal à l'aise, c'est inconfortable, mais tu dois tenir ça pendant longtemps. Nous sommes potentiellement, tout chrétien est potentiellement équipé de la capacité de supporter et d'être patient. Pourquoi? Parce que Dieu est patient envers nous et le Dieu qui habite en nous est patience et l'esprit que nous avons reçu est patience. Souviens-toi de combien Dieu est patient envers toi et dis-toi, et si j'étais à sa place? 2 Pierre chapitre 3 verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme les uns le croient, mais il use de patience envers nous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Vous voyez ça? Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Paul parle chaque fois du fait que Dieu montre son amour et sa bonté à travers sa patience. Il est là en train d'attendre. Il supporte nos bêtises. Mais il dit, je vais rester encore longtemps comme ça, jusqu'à ce que chacun se répande. Mes frères, si nous devons être patients, c'est parce que nous avons goûté à la patience. Écoutez bien cette phrase. Je deviens patient en me souvenant d'un Dieu patient. Mets cela dans ta tête. Souviens-toi, Dieu est patient envers moi. Donc, j'ai en moi ce Dieu patient. Ce qui signifie que je suis potentiellement patient. Donc, je dois manifester la patience. Souviens-toi du Dieu patient qui continue à patienter tes erreurs et devient patient. Dans ma vie, j'ai souvent fait usage de ça. Même quand je m'étais déjà enflammé, j'avais même parlé, j'avais déjà dit que non, voilà, je vais faire ça. J'ai déjà quelque chose de clair. Et je reste, je me dis, hey, Tom's, et toi alors? Est-ce qu'il n'est pas autant patient envers toi? Et je me tourne vers Dieu, je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi de traiter les autres comme jamais je n'aurais accepté que tu me traites. Aide-moi à les traiter comme toi, tu me traites, avec patience. Troisièmement, patience qui rend le bien au lieu de réagir. La foi chrétienne, Jésus l'enseigne, non pas comme une religion réactive. Ce n'est pas comme une croyance qui réagit à ce que les gens font. Jésus enseigne tout le temps d'être proactif, d'être capable d'initier quelque chose qui ne dépend pas de ce qu'on nous fait, mais qui dépend de ce que nous sommes. Jésus nous a souvent enseigné dans la Bible à faire les choses sur base de notre nature et non en réponse à l'univers qui est autour de nous. Il dit par exemple, quand tu gifles d'une joue, donne l'autre. Oh, comment est-ce possible? Naturellement, je devais réagir. Je devais moi aussi montrer que j'ai été touché. Il nous enseigne plutôt qu'il faut apprendre à rendre le bien, même quand le bien n'est pas la réaction directe du mal qui nous a été fait. Romains chapitre 12, versets 17 à 21. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ne réponds pas au mal par le mal. La Bible te recommande de surmonter le mal par le bien, et c'est une expression forte d'un amour qui patiente. 1 Timothée chapitre 5, versets 14 à 15. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans les désordres, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Il dit bien, prenez garde que personne ne rende le mal à autrui. Et il dit, supportez-vous, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Juste après avoir dit, usez de patience envers tous, il dit, prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Frère, la patience, mes amis, c'est lié au fait de montrer aussi que notre réaction n'est pas la réponse au mal qui nous a été fait. Ma colère me venge, ma patience m'échange. Ça, c'est une phrase que j'aimerais que vous puissiez retenir et vous en souvenir. Ma colère, ça me venge. Je me suis vengé. J'ai repris ma colère. Faites pas ça. La Bible dit à l'Éternel la vengeance. Par contre, ta patience, ma patience, m'échange. Tu deviens une toute autre personne à force d'user de patience. Vous savez comment les gens sont choqués quand ils pouvaient prédire une réaction de ta part et ça n'arrive pas. C'est dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on lui a fait? C'est comme ça que les gens disent, on l'a lavé le cerveau, il est devenu, non, mais qu'est-ce qu'on lui a fait, moi, le connaissant, ça lui ressemble pas. Bien sûr que oui, ça ne peut pas me ressembler. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. 4. Patience avec les processus. Quand on parle de l'amour qui est patient, on parle de la patience aussi avec le processus. C'est-à-dire, c'est l'amour qui attend les étapes en train d'attendre que ça s'accomplisse. Si tu aimes les gens, tu dois attendre le temps que ça s'accomplisse. Tu ne dois pas seulement ne pas répondre au mal par le mal, ne pas seulement attendre longtemps, supporter longtemps la personne, mais tu dois aussi apprendre à attendre les processus, les étapes. Marc chapitre 4, versets 26 à 29. Il dit encore, il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre, qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même, d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain, tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille, car la moisson est là. Regardez ça. Il montre, Jésus parle ici du processus, et il montre que l'homme n'a rien à voir dans ça. Il dit le royaume, c'est comme justement placer la semence, je ne vais pas expliquer cette parabole de royaume, mais je veux que vous puissiez voir ici un processus automatique qui ne dépend de rien de notre côté. Mes amis, soyez patients dans le processus. Attendez. Si c'est encore un enfant, c'est encore un enfant. Si c'est encore au début du mariage, c'est encore au début du mariage. Pourquoi vous avez débuté le mariage, vous deux, au même moment? Et tu aimerais qu'elle mûrisse plus vite dans un domaine, et toi, tu t'excuses dans le domaine où tu ne mûris pas de sitôt. L'amour est patient dans le processus. Ce que vous vivez aujourd'hui, plus tard, vous ne le vivrez plus. Ce que vous voyez dans l'enfant, vous ne le verrez pas dans l'ado. Ce que vous voyez dans l'ado, vous ne le verrez pas dans l'adulte. Colossiens 3, 12, 14. « Ainsi donc, comme les élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous des sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de ses plaintes de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité qui est le lien de la perfection. » Voilà. L'amour, le lien, la perfection qui s'exprime par se supporter les uns les autres. Écoutez bien cette phrase. Le prochain pas vaut mieux que la grande promesse non tenue. Il vaut mieux, comme il dit, que je fasse un prochain pas, juste d'ici, là où je suis, vers là où je vais, au lieu d'avoir des grosses promesses de là où j'irai loin. Et ces promesses ne sont jamais tenues. Je préfère faire le prochain pas que d'attendre un jour de pouvoir sauter et voler. Et cela n'arrive jamais. Alors, réjouissez-vous du prochain pas. Le prochain pas est toujours meilleur qu'un décollage qui n'arrivera jamais. 5. Patience est différente de passivité. Quand on dit patience, mes amis, on ne dit pas passivité. Je ne suis pas en train d'essayer de vous dompter pour que vous deveniez inerte et passif. Non. Je vous enseigne ce que la Bible nous montre. L'amour devrait être patient. Mais ça ne signifie pas que l'amour est passif. Éphésiens 4, 2, 3 dit, En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Le verset 29 et 27, toujours d'Éphésiens, dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne dormez pas et ne donnez pas accès au diable. » Il n'a pas dit « Vous ne pouvez jamais vous mettre en colère. » Il dit « Non. » Oui, on va se supporter les uns les autres, mais nous sommes dans un contexte où, à un moment donné, la colère va s'exprimer. Mais voilà ce qu'il faut donner comme limite à la colère, c'est qu'on ne devrait pas, on ne veut pas dormir avec. Être patient ne signifie pas qu'on ne se fâchera jamais. Ça signifie qu'on est juste lent avant de se fâcher. Matthieu 18, 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. On n'a pas dit si ton frère a péché, ne le reprends jamais. C'est ce qui montre l'amour. Non, non. Ça signifie être actif, aller le voir et lui dire que tu as péché. Ça signifie que tu ne vas pas lui donner une punition tout de suite. Parce qu'il y a un processus auquel il faut être patient, parce que la patience n'est pas la passivité. Écoutez bien cette phrase. Être patient, ce n'est pas tout permettre, c'est bien gouverner. La patience te permet de gérer et de gouverner. Ça ne dit pas que tu dois présenter des bêtises. Quand quelqu'un est lent dans la colère, il est respecté. Celui qui se fâche à chaque bout de champ finit par perdre tout respect de tout le monde. La lenteur de ta colère montre combien tu aimes tes frères, tes sœurs, tes collaborateurs, ta femme, ton mari. Les gens autour de toi perçoivent l'amour de Dieu quand tu sais être lent dans la colère, mais aussi quand tu sais à quel moment te fâcher. Pas être passif. 6. Patience remplie de l'esprit est incarnée dans la communauté. Il y a une autre forme de patience, plutôt, une autre façon d'exprimer l'amour par la patience. C'est que, il faut se souvenir que l'amour, la patience qu'il y a dans l'amour, nous vient du Saint-Esprit. Et ça s'exprime dans la communauté. Galates 5, 22-25. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. On vient de citer la patience comme un fruit de l'Esprit. Ce n'est pas juste un sentiment d'amour. L'Esprit de Dieu l'a amené en nous comme un fruit. Si tu te dis spirituel, tu dois être patient. Éphésiens 4, 1 à 3. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Encore, par le lien de la paix, par l'esprit, on voit cette patience. Proverbe 27, 17. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. La patience, mes amis, est une chose que nous développons bien parce que nous l'avons reçue de l'esprit, mais aussi parce que nous vivons en communauté. Tu n'as pas besoin d'être patient avec toi-même. Tu es obligé d'être patient avec quelque chose d'extérieur, un processus, un autre individu. C'est pourquoi retiens bien cette phrase. La patience pousse mieux en famille qu'en solo. La patience, elle pousse mieux en famille qu'en solo. Si tu veux apprendre à être patient, si tu veux montrer que tu aimes les gens, il faut que tu sois patient. Alors si tu dois être patient, il faut vivre avec eux. Les gens t'apprendront la patience. Les hommes, les êtres humains vont t'apprendre à être patient. Comment? Juste apprendre à les aimer parce qu'ils sont pas toujours comme on aurait voulu qu'ils soient. Alors progressivement, tu vas être patient avec le processus, avec le comportement et tout. Voici rapidement 5 choses que tu ne dois pas oublier. 1. Écoute quelqu'un jusqu'au bout sans l'interrompre. Ça te permet d'être patient. Écoute, n'interromps pas. 2. Choisis la file la plus longue au magasin et bénis Dieu intérieurement. Bel exercice de patience. Quand tu es dans un magasin, tu sais que tu es quelqu'un de pas patient. Choisis la file la plus longue. Utilise tout ce temps-là pour rendre grâce à Dieu du travail qu'il fait avec toi. 3. Remets une correction non urgente à demain pour répondre avec calme. Si tu penses que tu devais redresser quelque chose d'un comportement de quelqu'un, ne le fais pas tout de suite. Dis-toi, je vais le faire demain. Reporte les expressions de colère et des revendications. Ça te permettra d'avoir de la patience. 4. Réponds à un message difficile seulement après une courte prière. Quand tu sens que quelqu'un t'a écrit un mail ou un message, ton cœur est dans la colère, n'y réponds pas si tu ne pries pas d'abord. Et puis 5, souris au lieu de répliquer quand on te pique. Si tu veux apprendre à être patient et que tu sens qu'on t'a piqué par une parole, par une façon d'être, commence d'abord par sourire au lieu de répliquer. J'ai été le plus pragmatique possible et c'est comme ça que toute cette semaine va être. Dieu vous bénisse et à demain.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.